Radio Okapi. Des responsables du M23, ADEF, CODECO, FDLR, Mai Mai et Justin Bitakwira, sanctionnés par le Conseil de l'Union Européenne. Ils le sont ainsi pour des graves violations de droits de l'homme et atteintes à ces droits, ainsi que d'entretenir le conflit armé en RDC. Et puis, lutte contre la corruption, la justice seule ne saura pas au regard de la puissance financière des corrupteurs et des corrompus. La RDC exige l'implication de toutes les institutions. Ceci ressort de la conférence internationale anti-corruption en cours à Washington. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est Jean-Jacques Mamba. Il est coordonnateur national de l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive. Il participe à la conférence internationale anti-corruption de Washington. Il nous parlera de la lutte contre la corruption dans le secteur minier. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le Conseil de l'Union européenne a décidé ce jeudi 8 décembre d'ajouter 8 personnes à la liste de personnes faisant l'objet de mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo. Les mesures restrictives existantes ont été prorogées pour une durée d'un an, indique un communiqué de l'Union européenne. Parmi les 8 personnes inscrites sur la liste figurent 5 membres des différents groupes armés, M23, ADF, CODECO, FDLR et Mai Mai Yakutumba, ainsi qu'un membre de l'armée congolaise, Justin Bitakwira, un homme politique congolais et un homme d'affaires belge. La plupart d'entre eux sont responsables de graves violations de droits de l'homme et atteintes à ces droits, ainsi que d'entretenir le conflit armé en RDC. D'autres personnes ont été inscrites sur la liste pour des raisons d'incitation à la violence et d'instrumentalisation du conflit en se livrant à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles, indique le Conseil. Le détail avec Alain Irung.
Parmi ces personnalités sanctionnées figurent Ruvugai Mikore Protogène alias Ruinda des FDLR Foka, Medin Kaloubo alias Mohamed Ali Kaloubo des ADF, Joseph Nganzo Olikwa Tipi alias Colonel Tipi 00, colonel au sein des FRDC, Désiré Londroma Njukpa alias Désiré Lokana Lokanza, chargé de défense du groupe CODECO URDPC, Willy Ngoma alias Major Willy Ngoma, porte-parole M23 ARC, William Yakutumba, fondateur et dirigeant de la milice Mai Mai Yakutumba, Alain-François Viviane Goetz, homme d'affaires belge, et Justin Bitakwira, homme politique congolais. Au total, 17 personnes font désormais l'objet des mesures restrictives de l'Union européenne qui ont été prorogées jusqu'au 12 décembre 2023 et consistent en une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne et un gel des avoirs. En outre, il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l'Union européenne de mettre des fonds à la disposition des personnes inscrites sur la liste.
Sanctionné pour des discours de haine tribale et incitation à la violence par l'Union européenne, Justin Bitakwira, homme politique congolais, dit ne pas être concerné, ni de loin ni de près. Il s'est dit même surpris de figurer sur cette liste alors qu'il n'est fait que lutter pour la cause de la RDC. On écoute Justin Bitakwira, joint par Alain Irung.
Je suis surpris, personnellement. Je n'ai jamais pris l'arme. Je ne fais pas partie des groupes armés. Je n'ai jamais tué même pas un seul rat. Et je suis surpris que, parce que je défends les intérêts de la République démocratique du Congo, je défends les intérêts du Kivu tout entier, enflammé, où il y a eu des tueries de masse, des assassinats, Makobola, Katogota, Kasika, Mwenga. Tous ces criminels se promènent en Europe, en Asie, en Amérique, comme en Afrique et comme au Congo. Ils sont là. Le rapport Mapping, où en sommes-nous? Le rapport Mapping, si ce n'est pas l'Union européenne qui garde ce rapport dans les tiroirs de l'ONU. Donc personnellement, je ne me sens pas concerné, pas du tout. Je me reproche de rien. En dehors et défendre mon pays.
Le Congo appartient aux Congolais et non aux étrangers. Pour nous faire respecter, nous devons avoir une armée forte, de sorte que si un ennemi veut s'en prendre au Congo, il aura à faire face à la puissance des feux de notre armée. Et c'est le travail que je suis en train de faire maintenant. Ces propos sont du président de la République, mercredi devant les recrues de l'armée à la base militaire de Kitona au Congo central. Félix-Antoine Tshisekedi les a appelés à se concentrer sur leur formation et leur travail pendant que lui s'occupera de leur famille et de leurs préoccupations. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Je me réjouis énormément en voyant que les compatriotes ont répondu favorablement à l'appel que j'avais lancé le 3 novembre. Ils se sont levés dans les 26 provinces de la RDC et ils ont dit qu'ils acceptent de mourir pour ce pays. J'en suis très content et il faudrait que la nation vous soit aussi reconnaissante. C'est pourquoi, moi le président de la République, je vous dis maintenant que tous vos problèmes me concernent. Vos souffrances sont désormais les miennes. Vous avez appris que le gouvernement avait envoyé la loi de programmation au Parlement. Depuis l'indépendance, cette loi-là n'avait jamais existé. Le but de cette loi est d'organiser notre armée, connaître l'effectif des militaires, savoir équiper notre armée, savoir gérer notre pays de sorte que les militaires soient dans de bonnes conditions. Cette loi nous permettra de mettre l'argent qu'il faut pour vous soutenir dans tout ce que je vous ai expliqué. La souffrance, les détournements des rations des militaires, toutes ces choses vont finir.
Alors pendant ce temps au Nord Kivu, dans son exil, le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Bambo dénonce une connotation ethnique que veut prendre la rébellion du M23 pour, selon lui, se maintenir dans la zone occupée. Isaac Kibira s'est ainsi confié ce jeudi à Radio Kapi. Il réagit à un communiqué du porte-parole du M23 datant de mercredi. Dans les dix communiqués, le rebelle annonce leur décision d'intervenir pour arrêter un présumé génocide contre environ 5000 ménages d'une communauté ayant trouvé refuge dans la zone qu'ils occupent. Le fonctionnaire délégué adjoint demande notamment la restauration de l'autorité du pouvoir coutumier dans le Rutshuru pour prévenir les pires. On l'écoute.
Ces communiqués d'hier, lorsqu'on a vu ça sur WhatsApp, on a constaté comme quoi ces gens-là ne veulent pas quitter. Ils veulent rester dans la zone occupée pour qu'ils puissent effacer les traces de tous les massacres commis dans la zone. Parce que la quasi-totalité de la population a quitté. Alors, ils cherchent un autre alibi en disant qu'il y a une communauté qui est menacée, qu'on voudrait protéger cette communauté. Pendant que c'est archi faux. Avant qu'ils arrivent dans la zone, tout le monde vivait ensemble sans problème. Il y avait l'insécurité, le banditisme le long de la route. Tout le monde était ciblé par le banditisme, mais on ne ciblait pas une communauté. Alors, ce qui nous surprend encore, c'est de voir un autre communiqué signé par Kanyuka. On dit finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils voudraient quoi au juste? Nous voulons toujours la cohabitation pacifique entre les communautés. Il faudrait que les M23 quittent celle de la zone aux gens qui géraient cette zone depuis longtemps. Les chefs coutumiers sont là, les administratifs sont là, la FRDC est là. Ou bien si le M23 dit qu'il y a une communauté qui est menacée, la force de l'EAC est ici, on peut la saisir.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption en RDC exige l'implication de toutes les institutions et surtout de la société civile pour la rendre efficace. La justice seule ne sera pas au regard de la puissance financière des corrupteurs et des corrompus. C'est ce qui ressort de la conférence internationale anticorruption en cours à Washington aux États-Unis, a affirmé Maître Fidel Mawete. D'après le coordonnateur de la cellule technique de lutte contre l'impunité, service spécialisé au sein du ministère de la Justice, aucune pression politique ne peut empêcher le juge d'user de ses prérogatives constitutionnelles en matière de lutte contre la corruption si la société civile s'implique activement. Ce qui pousse Ernest Mpararo de l'ICOCO à exiger l'implication de la justice congolaise dans l'affaire Glencore. Michel Kifindangoy pour plus de détails.
Prise pour exemple de corruption à grande échelle à la conférence internationale de Washington, l'affaire Glencore nécessite une contre-vérification pour évaluer ce que le gouvernement devrait bénéficier comme dédommagement, estime Ernest Mpararo de la LICOCO.
Glencore avec deux dossiers où il avait accepté d'avoir commis des faits de corruption. Il a payé 180 millions de dollars. Nous avions contacté les autorités. L'IGF a accepté de mener une contre-vérification pour savoir si ce que Glencore a payé devrait être le vrai montant qu'il devrait payer.
Pour le coordonnateur de la cellule technique contre la corruption du ministère de la Justice, le gouvernement a besoin de l'implication de tous pour faire face à la corruption en RDC. Fidel Mawete.
Toutes les différentes structures doivent travailler de concert. Dès que nous rentrons en ça, les choses vont bouger. Ça, nous le disons. Nous devons impliquer la société civile. Toutes les différentes couches de la société dans les cadres de la lutte contre la corruption. Il faut savoir dénoncer et pourquoi pas déraciner la corruption.
Étant point focal de la RDC pour l'examen de l'application de la Convention de l'ONU contre la corruption, Maître Fidel Mawete se félicite du fait que la RDC répond favorablement aux obligations de l'Organisation des Nations Unies contre la corruption. De Washington DC, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
On revient au pays. Dans la province du Maniema, l'eau potable de la régie des eaux devient une denrée rare dans la ville de Kindu. La population et surtout les abonnés de cette société commerciale se plaignent de cette situation qui les expose à des maladies d'origine hydrique car ils recourent aux eaux du fleuve Congo et des puits. Il plaide pour une intervention rapide. De l'autre côté, la Régie des eaux évoque le manque de stock de carburant et l'insolvabilité de certains abonnés qui ne veulent pas honorer leurs factures. À Kindu, une correspondance de Florence Kizalunga.
Selon certains ménages qui nous ont contactés, c'est depuis des jours qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable de la Régie des eaux. Témoignage.
Ça fait des jours que l'eau de la Régie des eaux ne coule pas dans nos robinets. Nous ne savons pas pourquoi. Vous savez que l'eau, c'est un produit qui a trait avec la vie humaine. On ne peut pas vivre sans eau. Nous avons besoin de l'eau. La Régie des eaux doit nous donner de l'eau à boire. Que les gouvernements viennent aux rescousses de la Régie des eaux.
On ne coule pas au robinet. Nous avons difficile accès aux installations sanitaires et à d'autres besoins de ménage. Nous utilisons l'eau des puits qui nous expose à des maladies d'ordre hydrique. Nous ne savons pas quoi faire.
Le directeur provincial de la Régie des eaux dit être conscient de la situation. Il évoque le manque de carburant et du courant électrique de la SNEL qui aggrave la situation. Pascal Bokanga.
C'est vrai, il n'y a pas d'eau depuis deux jours. Si vous vous souvenez bien, un jour, je vous avais dit que nous avons des difficultés pour réunir le moyen nécessaire et faire tourner les équipements. Les abonnés ne payent pas nos factures de consommation. Conséquence, nous manquons de moyens aujourd'hui pour pouvoir acheter du carburant et tourner notre groupe électrogène. De deux, il y a arrêt de la SNEL, madame.
Saisi, le gouvernement provincial promet d'apporter une solution urgente ensemble avec les responsables de la Régie des eaux. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Autre nouvelle. Fin ce jeudi 8 décembre, des activités du village des droits des femmes à l'apparence Notre-Dame de Fatima, ici à Kinshasa. Organisée par le Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits humains, cette activité s'inscrit dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Patience Ngalula était sur place, voici son reportage.
Ces derniers jours étaient consacrés au test du niveau des connaissances de jeunes filles par rapport aux thématiques liées aux violences sexuelles, les compétences de vie courante et l'accès des filles aux plateformes digitales. Karen Chulungu, l'une des participantes.
Je connais que les violences sexuelles, ce n'est pas que l'acte sexuel en lui-même, que les violences sexuelles peuvent se présenter sous plusieurs formes, notamment l'attentat à la pudeur, le souteneur et le proxénétisme, la prostitution forcée, le harcèlement sexuel, le mariage forcé et j'en passe.
Satisfaite du niveau des connaissances des filles de ces thématiques importantes, la directrice adjointe du BCNUDH, Erika Bess, leur a recommandé d'être des ambassadrices de lutte contre les violences sexuelles dans leur communauté. Pour sa part, la directrice adjointe de l'Agence nationale de lutte contre les violences sexuelles faites à la femme et à la jeune fille encourage les victimes à la dénonciation pour combattre ces fléaux. Madame Eugénie.
La loi est opposable à tous. Si la famille a peur de porter plainte, il faut aller voir aux associations qui accompagnent la victime.
Notez que ce village des droits de la femme a vécu pendant deux jours autour du thème « Hommes et femmes, posons ensemble chaque jour un acte pour éradiquer les violences faites aux femmes et filles ».
Et puis des femmes et jeunes filles victimes de violences sexuelles plaident pour la suppression des barrières à la lutte contre les violences qu'elles subissent dans la société et pour la mobilisation des ressources en leur faveur. Elles ont fait entendre leur voix dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. C'était au cours d'une matinée d'échange organisée ce jeudi 8 décembre par le RENADEF, Réseau National des ONG de Développement des Femmes. On écoute le témoignage de cette femme sur ce qu'elle a subi dans son enfance et comment elle milite. Paulette Sefou est au micro de Jeff Ngoy.
J'étais un enfant à l'âge de 15 ans. Je me suis mariée, mariage forcé. Je ne voulais pas de ce mariage. C'était la violence parce que j'étais même acheté sa troisième fille. Comme il avait beaucoup d'argent, moi je ne voulais pas de ce mariage. Il a influencé ma famille et mon entourage par rapport à son argent. Je ne connaissais pas mon droit. Maintenant là, comme je suis avec RENADEF, j'ai fait la formation par rapport au paragériste. Je connais bien mon droit. Les histoires comme ça ne peut pas arriver aux jeunes filles. C'est pour cela que je mets toujours debout, de porter haut la voix pour lutter contre la violence sexuelle faite aux femmes, aux jeunes filles. C'est pour cela que j'avais créé une ONG des jeunes filles, personnes qui avaient le VIH, des adolescents. Zaina, la coordinatrice du RENADEF, c'est notre coach. On a eu des formations pour aider la génération sans violence.
Actualité internationale.
Au Tchad, 80 mineurs interpellés pendant les manifestations contre la prolongation de la transition le 20 octobre dernier ont bénéficié d'une liberté conditionnelle jeudi 8 décembre. Incarcérés à la prison de haute sécurité de Korotoro depuis leur arrestation, ils ont été ramenés dans la capitale il y a quelques jours avant d'être libérés et de regagner leur famille pour la plupart. Et puis la Russie libère la basketteuse américaine Brittney Griner lors d'un échange de prisonniers. La joueuse Britney Griner, détenue en Russie depuis février 2022, a été échangée avec le célèbre marchand d'armes russe Viktor Bout.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Jean-Jacques Mamba. Il est le coordonnateur national de l'Initiative pour la transparence de l'industrie extractive, ITIE. Il participe à la conférence internationale anticorruption à Washington, aux États-Unis. Il nous parle des efforts de lutte contre la corruption dans le secteur minier, qui est le premier secteur pourvoyeur de ressources financières en République démocratique du Congo. Il est interrogé par Michel Kifindangoy.
Monsieur Jean-Jacques Kayembe, bonjour.
Bonjour.
Vous évoluez dans un secteur assez complexe dans notre pays. Vous savez que le poumon de l'économie congolaise est d'abord minière et on constate qu'il y a suffisamment de faits de corruption dans ces secteurs-là, ce qui empêche l'État congolais de canaliser suffisamment de moyens. Comment voyez-vous la lutte contre la corruption dans l'avenir au regard de tout ce que vous apprenez ici?
Oui, d'ailleurs, c'est la plénière que nous venons de terminer tout de suite là, où on parle de la signature des contrats. Nous savons que notre pays a été impacté négativement dans la signature de tous les contrats miniers que nous connaissons. Aujourd'hui, nous avons appelé et nous disons que les corrupteurs sont dans le Nord. Donc, lorsque nous parlons de la corruption, nous devons punir sévèrement les corrupteurs et nous devons demander à ceux qui viennent du Nord pour signer les contrats chez nous de publier les contrats et la manière dont ils ont signé les contrats dans nos pays. C'est la session de tout à l'heure, nous avons travaillé et avant ça, nous avons eu une session sur les propriétaires effectifs de nos mines. Nous sommes tous d'accord ici que nous devons travailler main dans la main pour que les registres soient connus dans tous les pays, que ce soit dans les pays où on exploite chez nous et dans les pays d'où ils viennent. Et nous aurons à partager ces registres pour lutter vraiment contre la corruption.
La directrice de l'USAID a souligné que le cobalt aujourd'hui est devenu un minerai d'enjeu, mais en même temps, il dit que les pays qui régorgent cette matière première, dont la RDC, sont gangrénés par la corruption. Du coup, ces matières premières, au lieu d'être une chance pour le pays, deviennent une malédiction pour sa population. Comment comptez-vous renverser la tendance dans le cadre de votre travail en tant qu'ITIE?
Mais ça, c'est une déclaration parce que les pays ou les institutions sont en train de regarder la RDC depuis la signature, je pense, ou la publication du code de 2002. Mais je peux bien affirmer qu'aujourd'hui, il y a une forte évolution. Depuis le 13 du mois d'octobre, la RDC a été publicité payée à transparence élevée. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte où on sent qu'il y a des efforts de construction de transparence pour aller dans la bonne gouvernance. Mais malheureusement, quand le monde entier est en train de nous regarder, il regarde sur les 20 ans passés en RDC. Comment les gens ont acquis les titres chez nous, dans la corruption ou dans les pratiques de ce genre.
Mais est-ce qu'il y a possibilité de faire une rétroaction? Ça veut dire essayer d'analyser de nouveau les titres qui ont été attribués aux multinationaux qui se sont installés il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, afin d'envisager un renforcement de la transparence dans ce secteur.
Mais tout à l'heure, on a évoqué le cas de Glencore qui vient de signer un accord de payer 180 millions de dollars au gouvernement de la RDC. La question qui a été posée dans la salle, est-ce que c'est suffisant? Mais le problème qui se pose actuellement, est-ce que le gouvernement ou la RDC a le droit de regarder dans son passé? De mon analyse, je dis oui. Mais comment le faire? Il appartient au gouvernement et aux Congolais de réfléchir de manière approfondie pour que les erreurs du passé soient corrigées. Mais il faut se mettre en tête que si nous y allons de manière brutale, nous risquons de nous retrouver à l'arbitrage. Mais il faut une stratégie, une politique pour que le Congolais puisse jouir de ses ressources naturelles.
Ne pensez-vous pas qu'il est important d'envisager aussi la sanction pour ceux qui ont signé des contrats en défaveur de la RDC?
Oui, ce que moi je peux dire, c'est que l'ITE n'a pas de pouvoir coercitif. Nous, on a mis à disposition de toutes les institutions, tous les contrats et toutes les informations liées au secteur extractif. Il appartient à la justice ou aux institutions qui doivent maintenant aller dedans, dans les contrats, voire pour établir les responsabilités.
Est-ce que vous pensez que l'ITIE peut être en mesure de présenter au parquet toutes les preuves démontrant qu'il y a eu des cas de corruption et qui peut permettre à l'État congolais de récupérer tout ce qui a été perdu?
Je ne peux pas aller obliger un procureur de se saisir des faits qui sont clairs, qui sont dans les rapports ITE, ils peuvent se saisir de ces rapports qui contiennent la bonne information et ils peuvent faire les enquêtes. Je prends un exemple. Il y a quelques semaines, Glencore venait d'être condamné dans certains pays. Mais c'est pour une partie des faits, c'est en RDC. La justice peut se saisir, peut voir Glencore. Le corrupteur peut au moins nous indiquer qui est le corrompu. Si notre pays arrivait à recouvrir ces milliards, je pense que nous pouvons lutter contre la pauvreté.
Jean-Jacques Kayembe, je vous remercie.
Je vous remercie, cher ami.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal. Mise en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République, sous la coordination et la supervision d'Alain Irung Mushinge. Merci également à vous pour votre particulière attention.